L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ondes de Radio Galaxie 98.5. Aujourd'hui, dans notre émission Montagne, nous allons aborder les lieux mystérieux de nos chères Pyrénées. Des lieux qui parfois ont été source de grandes tragédies. Vieilles pierres et ruines dont on a perdu l'origine. Rites païens dont le sens profond est depuis longtemps oublié. Anciens dieux déchus et génies des montagnes transformés en personnages de légende. Fées, monstres et dragons qui hantent les forêts, les sommets et les lacs. Les paysages grandioses et solitaires des Pyrénées, ainsi que les conditions de vie difficiles des montagnards, ont sans doute accentué dans ces régions un goût prononcé pour le surnaturel. À une époque où chaque croyance, chaque rite avait une fonction, visait à redonner et expliquer le monde, à mettre une image sur les angoisses diffuses des hommes et à trouver une explication aux maux qui les accablaient. La plupart des croyances, des mystères et des légendes des Pyrénées ont pris forme dans cette nature sauvage qui entourait les hommes. D'anciens cultes animistes se sont mêlés à l'influence des rites antiques, aux grands mythes européens et aux connaissances historiques avant d'être souvent interdits, repris ou transformés par le christianisme. Commençons notre tour des lieux mystérieux dans les Pyrénées par le pic de la Rune, qui est le sommet majeur du Pays basque. On dit que sur la Rune se tenaient autrefois des sabbats de sorcières. Les dolmens disséminés sur ces pentes invitèrent sans doute les esprits baroques à organiser des cérémonies nocturnes en ces lieux retirés. Au Moyen-Âge, les sorcières étaient jugées pour commerce d'herbes, d'empoisonnement ou mauvais sort. Mais à partir du XVe siècle, elles furent accusées de faire directement commerce avec le diable. Et la peur des sorcières enfla dans toute l'Europe. À en croire les textes de l'Inquisition, les Pyrénées occidentales, et tout particulièrement la région du Larbousse, furent envahies par une véritable épidémie de sorcellerie. En ces temps difficiles, les sorcières produites des frayeurs et des fantasmes collectifs devinrent cause de tous les maux qui accablaient le pays. Concernant les peurs irrationnelles des villageois, elles constituaient une explication simple aux difficultés quotidiennes et aux malheurs cycliques. On croyait voir des sorcières partout, jeter des mauvais sorts sur les animaux et les hommes, organisant des monstrueux sabbats. On leur imputait les tempêtes, les mauvaises récoltes, les maladies et les catastrophes naturelles. Et en 1608, les autorités locales demandèrent la création d'une commission spéciale pour juger les affaires de sorcellerie. Le roi Henri IV donna tout pouvoir à l'inquisiteur Pierre de Lancre, qui avait droit de vie et de mort sur les accusés reconnus coupables. Mais la vague de la chasse aux sorcières cessa à la fin du XVIIe siècle. Ayant flairé la bonne affaire, des découvreurs de sorciers professionnels et plus ou moins louches sillonnaient les campagnes pour offrir leurs services et se faisaient payer au nombre de sorcières découvertes. Dénonçant des dizaines voire des centaines de personnes, ils semèrent la zizanie dans les villages et finirent par provoquer l'émoi des autorités. Certains furent reconnus comme usurpateurs et condamnés à leur tour. Et bien sûr, la Rune était un de ces lieux où les adorateurs du diable venaient se rassembler. Et ils appelaient ça la réunion des sorcières. Voici un extrait d'une méthode infaillible pour découvrir les sorciers et les sorcières. Pour prévenir et lever les mauvais sorts, chacun possède ses propres techniques, prières, talismans ou rituels. Lorsqu'on soupçonne une personne de sorcellerie, on peut recourir à plusieurs méthodes pour la confondre. Une sorcière véritable ne supportera pas que l'on place le pain à l'envers sur la table, car le diable est assis dessus. Si on chasse un chat sous ses yeux, elle se montrera troublée. Il faut surveiller ses allées et venues. Si elle fait des veillées le vendredi, c'est sans doute une sorcière. Si elle sort dans la nuit du samedi au dimanche, c'est qu'elle se rend au sabbat. Pour lui faire perdre ses pouvoirs, dire tout bas « Sorcière, sorcière, si tu reviens demain, je te donnerai du feu et du sel. » En cas d'échec, on peut faire appel à l'endevinaire, c'est une sorte d'anti-sorcier qui pratique la magie blanche et peut délivrer hommes et bêtes des envoûtements et des sortilèges. En dernier recours, on peut se rendre au pèlerinage auprès de Sainte Aurore Araca en Espagne, pour guérir les maudates, c'est les maux jetés par les sorcières. Sur ce, abordons notre sujet sur nos Pyrénées mystérieuses. Pourquoi pas parler des laminacs? Vous savez, ces petits êtres mi-fées, mi-lutins qui affectionnent les cavernes. Et on les trouve essentiellement dans les grottes sur les flancs du pic d'Ori. En principe, ils restent le plus souvent cachés, mais ne dédaignent pas la compagnie des hommes, avec qui ils font commerce de temps à autre. Au-dessus de la colline de Gastelu, il y a une grotte, la grotte d'Isturitz, et subsistent les restes d'une enceinte fortifiée, mais très ancienne, et on dit que les laminacs y ont caché leur trésor. Taquin, ils entrent parfois dans les maisons pour y faire quelques farces. Ce sont eux qui cachent les clés que l'on cherche partout et qui déplacent les ustensiles de cuisine. Parfois, ils se montrent plus inquiétants. D'ailleurs, on dit que sur le flanc du pic d'Ori vivait une femme retenue dans une caverne de laminac. Ce sont aussi les laminacs qui ont construit le pont de Bidari et de Lik Adereï. Alors que les habitants de Lik Adereï ne parvenaient pas à édifier un pont assez solide pour résister aux crues, un soir, un tout petit homme proposa un marché. Il édifierait un pont solide avant le premier chant du coq, en échange de quoi il pourrait disposer de la plus belle fille de l'endroit. Mais le fiancé de la belle réussit à faire chanter le coq juste avant l'aube, alors que le petit homme n'avait pas encore reposé la dernière pierre. J'ai envie de dire que les ponts du laminac et les ponts du diable sont très répandus dans toutes les Pyrénées, et les légendes qui s'y rapprochent sont assez semblables. Il s'agit presque toujours d'un marché ou d'un pacte passé avec le diable ou des créatures magiques, dont les hommes parviennent à déjouer le plan par la ruse. Et ces légendes véhiculées à propos des ponts correspondent sans doute aussi à d'anciens rites accomplis pour franchir les eaux, réminiscence, je dirais, d'une époque où chaque geste correspondait à un rituel ou une croyance. Tiens, pourquoi pas parler maintenant du culte des pierres? Tout au long du piémont pyrénéen, d'immenses cimetières datent de l'âge de fer. Ce culte de pierre est resté important jusqu'au XIXe siècle à peu près. C'est des survivances des religions anciennes de type animiste et culte des lieux sacrés liés aux défunts. On distingue dans les Pyrénées deux sortes de mégalithes. La première, ce sont des pierres héritées des glaciers du Quaternaire, et la seconde, ce sont des monuments préhistoriques. La montagne d'Espion, entre la vallée du Larbouste et la vallée d'Ouaye, conserve ainsi de très nombreuses traces du culte des pierres et notamment d'impressionnants alignements de blocs rocheux. Près d'Arudy aussi, une pierre trouvée à Buzy, à côté d'un dolmen, est couverte de pétroglyphes dont on ignore la signification. On a imaginé que ça pouvait représenter une carte du ciel, mais bon. Jusqu'au siècle dernier, pour s'assurer une grossesse sereine et un accouchement sans douleur, les femmes venaient ramper sous le dolmen, à Téla, après le tunnel d'Aragnouette. Il y a une falaise où il y a des hiéroglyphes marqués et en fait, c'était des cérémonies où les femmes allaient s'y frotter pour avoir une bonne grossesse. Au-dessus de Gèdre, dans les Pyrénées centrales, le caillou de l'Arélé possède des vertus protectrices. On vient en prélever des morceaux comme talisman bénéfique. Près de la chapelle de Saint-Paul-l'Arnave, en Ariège, se trouve une cabane qui protège une pierre noire réputée depuis le Moyen-Âge pour guérir la lèpre et la maladie nerveuse, comme l'épilepsie. Paraît-il qu'on s'endort sur la pierre et la guérison survient pendant le sommeil. Pour finir, je vais vous parler de la croix de Béliou qui est dans la vallée de l'Espône. On dit que la croix de Béliou recouvre la tombe de Milaris, le patriarche des bergers pyrénéens. À une époque très lointaine, les Pyrénées ne connaissaient pas la neige et Milaris et les siens vivaient très haut sur le flanc du pic du Midi de Bigorre. Un jour, Milaris, alors âgé de 909 ans, vit tomber les premiers flocons et sut que sa dernière heure était venue. La neige annonçait des temps nouveaux que lui n'avait pas à connaître. Il demanda alors à son fils de lancer une boule de neige vers le haut de la montagne, mais celui-ci la lança vers la vallée. Et depuis lors, chaque hiver, les vallées pyrénéennes sont recouvertes par la neige. Le patriarche recommanda à son fils de suivre leur troupeau de vaches vers la vallée et de s'établir là où elles s'arrêteraient. Elles choisirent les sources chaudes qui sont à l'origine de la ville thermale de Bagnères de Bigorre. Le patriarche fut enterré au-dessus de la ville, entre la vallée de l'Espône et de l'Ossouet. La croix de Béliou indique toujours sa tombe, au bord d'un chemin qui mène au pic de Montégut. Cette croix est sans doute un antique autel païen christianisé, Sur une de ses faces est gravé le visage d'une ancienne divinité, et Béliou est sans doute une déformation d'Abélios, antique dieu du soleil du panthéon pyrénéen. D'ailleurs, si vous voulez voir la croix, c'est depuis Bagnères de Bigorre, vous prenez la D935, puis suivre la vallée de l'Espône par la D29, et la croix est située sur le bord du sentier qui mène au pic de Montaigu, juste au-dessus du hameau de la Vialette. Sur ce, je vous souhaite bonne chance si vous partez à la découverte des lieux mystérieux qui jalonnent nos sentiers pyrénéens.